Le scénario de cette campagne est largement inspiré des romans de fantasy et des séries qui m'ont fait vibrer plus jeune et moins jeune. Donc, pour un public mature, vous êtes averti. Ouais, ouais, même toi, là, qui se gratte l'intérieur du nez dans le fond, là, je t'ai vu. Bonne écoute. Je suis Des Sang-Froid, Eric, et je m'amuse avec toutes ces belles personnes qui vont se présenter à vous.
Je suis NJ, et je vais interpréter Solomon, le frère commandant de l'Ordre de la Ronde Hache, et simple pion sur l'échiquier des rois de Babel.
Alors, je m'appelle Andréane, je serai Ygritte, une femme aussi sauvage que la meute de loups dans laquelle elle a grandi, à l'image des armes de guerre de Babel, froide, solide et difficile à manier.
Je suis Christophe de la chaîne Pilule Rouge JDR et l'interprète du père Guilhem de Basquerbourg. Du moins, ce qu'il en reste, car maintenant je suis autre chose. Je suis noirceurs et corruption, prisonnier de ma propre chair. Que les défunts me viennent en aide.
Je m'appelle Danny, alias Radburger, et j'incarne Cal Shadim, capitaine dans l'armée Mézoène.
Je n'ai qu'un seul but, c'est de protéger les êtres chers, malgré qu'il n'en reste plus beaucoup. Mais ma rencontre avec un enténébreur, ces magiciens profanes, a tout remis en question. Maintenant, je ne peux me fier qu'à une seule chose, ce sont mes fidèles cimetières.
Moi c'est Thomas, je vais interpréter Kenan Karaman, fils de Beryn Karaman. Je n'ai rien préparé en fait, d'ailleurs je ne savais même pas comment présenter mon personnage en une ligne. C'est un personnage tellement intéressant et abouti qu'il ne pourrait se résumer en seulement une ligne. Désolé pour les autres.
Les terres de Babel, l'an de grâce 3015 du deuxième cycle. Un monde sauvage, autant au cœur de la nature que dans le cœur des femmes et des hommes qui vivent au milieu des jungles que sont les cités. Un monde que tout divise de par ses religions, ses langues, ses us et coutumes, et ses rois cupides, dévorés par la fièvre du pouvoir qui s'empêtre dans les complots et les trahisons. Une terre cruelle qui forge des êtres tout aussi impitoyables qui, dans leurs veines, coulent le sang, le feu et l'acier. En ce lieu, l'amitié et l'amour sont d'autant plus précieux. Laissez-moi vous raconter l'histoire de celles et ceux qui y survivent assez longtemps pour que leur nom soit chanté et qu'il soit gravé à jamais dans les Chroniques de Babel.
Précédemment, dans les Chroniques de Babel, Ygritte, la guerrière Guanac venue du Nord, réside maintenant à la Villa des Karaman. Mais pour une raison qu'on ignore, Kenan refuse de révéler à la jeune femme que l'homme qu'elle recherche, le frère commandant Solomon, n'est qu'à 2 heures à cheval de leur cité. De son côté, le capitaine Cal Shadim respecte l'un des derniers vœux de son frère d'armes, le défunt Beryn Karaman, en entraînant le frère commandant Solomon, leur ancien ennemi, pour qu'il soit fin prêt à livrer son duel judiciaire sur les îles de fer. De retour, alors qu'il croise justement le fer avec de réelles armes.
Chapitre 1. Œil pour œil, dent pour dent.
Et là, vous voyez au premier tintement du métal, les 5 autres gardes qui ont la charge de surveiller Solomon sont accourus autour de la reine. Depuis 2 jours, vous vous entraînez, mais c'est le choc du bois qu'on entend. Cette fois-ci, avec le lieutenant Umar, c'est 6 hommes, 6 soldats, les yeux grands ouverts, émerveillés de voir... des hommes aussi talentueux croisaient le fer.
Cal se relève sans trop stresser, sans perdre de sa superbe. Il se tourne vers le lieutenant et dit « Lieutenant, lieutenant! »
Oui, capitaine. Tu vois qu'il fait quelques pas, mais en voyant ton faciès, il s'immobilise dans sa course. Qu'est-ce que je peux faire?
C'est toi... où l'un de tes hommes intervient dans ce combat, eh bien, toi et tous tes hommes seraient fouettés. M'avez-vous bien entendu?
Écoute, il y avait déjà des perles de sueur qui pointaient à la cime de ses cheveux, mais là, on voit que quelques perles se rajoutent sur son front. C'est un homme qui fait un petit peu d'embonpoint, hein? 4 ans à surveiller un seul prisonnier, à jouer aux dés, des jeux d'argent avec 5 autres hommes. Sans doute que cet homme n'était pas vraiment qualifié comme officier et ça s'est pas amélioré. Tu le vois déglutir et il se retourne et crie à ses hommes.
Vous avez entendu le capitaine? Personne n'intervient!
Bonne chance, capitaine. Et il recule lentement.
Dans sa barbe, Cal va dire seuls les idiots, les incompétents ou les magiciens croient en la chance. Et Cal va se dépoussière un petit peu. Il reprend une contenance, il replace. Alors, chevalier, maintenant c'est le moment. Nous allons voir si les années de tes années de captivité ont détruit tes instincts de combattant.
Cette fois-ci, Solomon ne répond pas. Il a l'air sombre d'avoir appris la mort de son ami. Et il se prépare à affronter Cal Shaddin.
Très bien, Cal. Tu te bats avec 2 cimetières. C'est tes armes de prédilection. Et vous êtes à égalité. Vous êtes 2 grands guerriers. Donc, ton jet se fait à 50%. Tu peux augmenter ton jet en amenant quelque chose dans tes intentions déclarées. Si on voit qu'il y a quelque chose qui peut te favoriser, on peut rajouter un 10%. Mais comme j'ai dit, la mécanique est là pour vous pointer la direction à prendre. Mais on peut toujours temporiser avec le système Kram. C'est-à-dire, même si t'as une réussite totale, t'es pas obligé de faire tous les dommages annoncés. C'est toi qui choisis. Et on a toujours la possibilité de prendre un état émotionnel, de le jouer et de relancer un jet, un mauvais jet.
Parfait, allons-y. Cal est encore stoïque, encore assez maître de son... de tout ce qu'il y a devant lui. Encore la tête froide, il est pas très... je pense qu'il se contrôle encore assez bien. Donc, allons-y. Pouit.
Traduction de Pouit.
Bon, ça fait 59. Fait que donc, je présume que c'est un échec.
C'est un échec. Ben, c'est la fiction qui frappe. C'est une passe qui va être difficile, ou ça peut être la malchance. On peut voir un flashback qui vient un peu distraire. Les sentiments, peut-être, prennent un peu le pas. Tu fais une gaffe. C'est à toi de choisir. Ou tu relances. Tu prends un état émotionnel que tu vas jouer et tu relances les dés.
Je trouve qu'il est tôt un peu pour faire un état émotionnel.
Je pense qu'il t'a picossé pas mal, Solomon. Il t'a ramené des faits que tu tentes d'éclipser depuis quelques jours.
Parfait. On va y aller avec contrarié, furieux, destructeur.
Très bien.
Donc, allons-y.
En espérant cette fois-ci qu'on est en bas.
Eh ben non, allons-y.
Ouch, la fiction frappe. Donc, je te laisse aller. Fait que là, il y a cette rage, cette contrariété qui est embarquée. Et on voit maintenant Cal Shaddin foncer sur Solomon.
Cal va charger avec une probablement beaucoup d'ardeur. Il multiplie les coups, pensant peut-être trouver une faille plus rapidement que ce qui est arrivé en fait. Dans tout ça. Salomon a bien tenu le coup et a été capable de bien parer, de prévoir les attaques, sauf que sans nécessairement vouloir le démontrer, bon, on voit que les dents serrées, Cal montre une ardeur qui est assez importante, mais sans jamais vraiment trouver une faille et en se fatiguant peut-être plus pour rien, parce que bon, évidemment, à ce moment-là, c'est pas son esprit tactique qui frappe, mais plutôt sa fureur, sa frustration qui a sorti beaucoup trop vite à son goût dans un combat comme ça, ce qui laisse il perd rapidement de la vitesse dans ses coups, sa volée de coups est de moins en moins directe et de moins en moins précise, ce qui fait à un moment donné qu'il fait juste cesser les attaques ils se mettent en défense, donc en position de recevoir une attaque. Mais néanmoins, on sent qu'il y a déjà, entamé certaines de ses...
ses ressources?
Oui, certaines de ses ressources, certaines de sa capacité physique aussi.
Mm-hmm. L'énergie.
Le Mon, lui, sûr de la dureté de son bouclier... a intercepté les attaques, hein, attendant d'avoir la fureur avec laquelle Kalshadim l'attaquait. Donc, en se protégeant, c'est la tactique « j'attaque, mon adversaire s'essouffle pour contre-attaquer ». Et là, je vois bien que ses coups commencent à manquer d'ardeur, de précision, le souffle court. Hein, il y a le torse qui se soulève au rythme brûlant de sa respiration sous le soleil. Et là, Solomon, lui, justement, aussitôt que Kalshadim se met en défense, Solomon va foncer vers lui et sa tactique va être tout simplement de venir monter le bouclier devant son visage pour lui cacher totalement la vue et frapper par en dessous.
Très bien. Je pense que Cal est un assez soldat aguerri pour comprendre la manœuvre, donc il n'y aura pas un avantage là-dessus, mais c'est beau de voir ça. Donc je vais te faire faire ton jet à 50%, Solomon.
60.
Est-ce que tu acceptes?
Je vais prendre un état émotionnel. Je pense qu'avec la nouvelle de la mort de Bérine, Solomon, qui pensait au début venir piquer Cal, hein, pour voir... ta vraie personnalité est plus du tout dans ce mood-là, là, présentement. J'irais peut-être avec... paumé, isolé, perdu, mais c'est peut-être plus dans un mood de tristesse qui se trouve, là.
Donc, on va voir une ombre passer sur le visage de Solomon. On voit que ce combat devient très émotionnel. C'est un combat qui aurait peut-être eu lieu il y a 4 ans, et il y a beaucoup d'eau qui sont passées... sous les ponts, et c'est un drame qui s'est joué également.
Et là, c'est 15.
C'est une réussite. Donc, on te laisse la main.
Oui, le bouclier, hein, en dessous du nez, Cal voit pas ce qui se passe en dessous, mais il est pas imbécile, justement. C'est un soldat guéri. Il se doute bien qu'il y a une attaque qui va arriver par en dessous. Par contre, ses forces ont été entamées. Et Solomon est plus rapide qu'on pourrait en douter, même s'il a été 4 ans en prison. Ça reste quelqu'un d'extrêmement agile. Et un coup de masse va venir frapper le même genou que Solomon avait frappé juste avant. Pas pour blesser gravement Kalshadim. Le but, c'est pas d'y briser le genou, c'est tout simplement... il va probablement avoir un gros bleu le lendemain, voire un noir... et on va voir Cal tomber à la renverse sur le sable et probablement une vague d'inquiétude parcourir à ce moment-là sur les soldats qui sont tout autour de la scène.
Oui, ils se sont relevés et t'as profité du fait que Cal s'est laissé un peu transporter par sa colère, effectivement.
Et Solomon va quand même faire ne profitera pas de sa position, va faire quelques pas en arrière attendant que Cal se relève. Ça reste une pratique, hein. C'est pas, je prends pas ça au sérieux. Et puis, je vais commencer à me promener de gauche à droite, là, tu sais, comme un lion en cage, et à repenser à Bérine qui est mort, ce que ça implique.
Dernière passe d'âme avec les dés, Cal.
Parfait, c'est moi qui y vais. 29.
C'est une réussite totale. Tu as la main, Kalshadim. Non, pardonnez-moi, c'est une réussite. Partiel. Donc, ça peut devenir une réussite totale si tu fais un sacrifice. Que fais-tu, Cal?
Et quel pourrait être le sacrifice?
Pensons-y.
Ça pourrait être la perte d'une arme ou une arme qui se brise.
OK, oui, j'ai de quoi là-dessus. C'est bon, ça marche. Okay. Cal frappe avec violence le sol. Il se relève, il dit « Allez, le régicide! » Tu te bats ou tu te bats pas? Nous ne sommes pas ici pour juste regarder et faire de la lutte dans le sable. Cal va charger encore. Cette fois-là, tu le vois, prend une technique qui est beaucoup plus une signature de certaines tribus du désert. Et tu vois, avec beaucoup de beaucoup de rotation sur lui-même. Frappe d'un côté, tourne de l'autre. Le cimetière, et des fois, on dirait qu'il frappe au niveau de la tête avec le plat du cimetière et tout ça. Mais encore une fois, on dirait que les coups semblent être bloqués jusqu'au moment où tu t'amènes ton bouclier. Cal va se tourner rapidement, coince son cimetière dans ton bouclier, claque, brise son cimetière en brisant les deux ganses qui te servent à tenir le bouclier, rendant son cimetière et ton bouclier inopérant. Tu viens bloquer avec ta masse, mais c'est son poing de sa main qui est maintenant vide, plus de cimetière, qui vient accueillir ton menton violemment. Qui te fait probablement sauter une dent et reculer de quelques pas en crachant du sang. Il dit « Je ne peux pas te rendre responsable de la mort de Bérine, mais si vous et votre race n'étiez pas venus ici pour rien, il serait certainement en vie et avec son honneur. »
Écoute, la caméra se tourne du côté de Solomon alors que tu craches du sang, Solomon?
Oui, et Solomon, quand il va se revirer vers Cal Shaddim, Cal va pouvoir voir les larmes qui coulent le long des joues de Solomon, hein, les yeux rouges. Et c'est pas parce qu'il vient de recevoir un coup de poing sur la gueule, pas en tout, mais c'est parce que c'est la perte de Bérine.
En quelque part, la personne qui vous unit, Cal et Solomon, c'était Bérine. Mm-hmm. Les deux, vous étiez très attachés à lui, et ce qui est en train de se passer là, ben vous êtes en train de faire votre deuil, tout simplement. Cal n'a pas rien exprimé, il avait d'autres choses en tête, et toute l'expression de son deuil est en train de se jouer là, sur ce sable. C'est toi qui as la main pour le dernier jet, Solomon.
OK. Je vais pas caler d'intention, je vais juste tirer, puis selon le résultat, je vais m'amuser.
Plane.
28.
C'est une réussite partielle, toi aussi.
Yes.
Est-ce que tu laisses ça en réussite partielle ou tu prends une réussite totale?
Oui, ben ça pourrait être pire si je le retire ou je prends le meilleur.
C'est que tu payes. Ben si tu veux transformer ça en réussite totale, tu fais un sacrifice tout simplement. Ok, parce que là déjà là quand tu te redresses, ton bouclier reste au sol.
Ouais.
Tu tiens ton marteau d'arme à deux mains. Mm-hmm. Et quel est ton sacrifice?
Mon sacrifice, ça va être de perdre mon marteau d'armes dans cette passe d'armes-là.
OK, très bien. Vas-y.
Donc, Solomon, hein, qui est en pleurs, perd pas de sa détermination face à Cal. Il va avancer vers Cal, premièrement d'un pas tranquille, puis tout d'un coup va se mettre à sprinter dans sa direction et va venir frapper Cal. Cal va avoir le coup facilement, hein. Il va le bloquer avec son cimetière. Et on va voir le marteau d'armes revoler dans les airs. Cal pense avoir désarmé Solomon, mais en fait, Solomon cherchait juste le contact avec Cal. Et il va l'empoigner. Et là, effectivement, les deux hommes vont se retrouver dans le sable en train de lutter. Cal, par contre, a toujours son cimetière. Solomon, lui, est désarmé. Et il va commencer à frapper Cal Shaddim. Et probablement, c'est une situation spéciale pour Cal d'avoir un homme en pleurs sur lui en train de le frapper.
Mais t'es pas en train de chialer. Tu sais, on voit juste les larmes couler, mais t'es pas...
Non, c'est ça. On voit juste... Ben, c'est les grosses larmes couler quand même, là. Tu sais, justement, c'est comme... Comme t'as dit, là, je suis en train de faire mon deuil, et puis en frappant Cal Shaddim, parce qu'à quelque part, j'y en veux aussi de pas avoir su protéger Bérine.
Donc, c'est un Solomon qui est par-dessus Cal, qui tient encore ses cimetières dans ses mains.
Son cimetière, ouais. Okay. Ben, en fait, on est dans le sable, puis moi, je suis en train de le frapper à coups de poing. Lui, il a encore son cimetière dans sa main.
Très bien. On repense la main à Cal.
À ce moment-là, Cal, pas très... Il a jamais perdu de vue, dans le fond, que le but étant d'humilier Solomon, ni de le tuer, ni même de le blesser. Quoi, ça servirait d'entraîner un homme pendant des jours pour un combat s'il faut le blesser à la dernière minute. À ce moment-là, Cal est une Quelle est une force de la nature, hein? C'est une bête, c'est extrêmement fort. Donc, je pense que à ce moment-là, c'est pas tellement dur pour lui de prendre les dessus sur Salomon au combat à mêlée, au combat en corps à corps, et tout simplement de se relever et d'empoigner Salomon et de le lever dans les airs en bloquant avec ses coudes les coups que Salomon amènerait, des coups de poing, et juste lui dire « Ce Beryn que tu dis aimer serait en vie si toi et tes chiens de chevalier étaient restés chez vous. » Et Cal, avec une force, une agressivité, lance Salomon à peut-être 2 mètres, 3 mètres de lui. Écoutez, c'est pas ce qui a blessé Salomon. Salomon va sûrement faire un roulé-boulé. Mais ça a montré, encore une fois, ça a fait sortir la force de l'homme et le caractère du taureau. Et Cal se replace prêt au combat, maintenant sans armes, parce que son cimetière a pas suivi non plus.
Solomon n'en démarre pas, lui. C'est un entêté de nature, un combatif. Il va se sprinter vers Cal. Et là, il va lui envoyer un crochet sur la mâchoire que Cal va faire un pas de vers l'arrière sous la fureur du coup et va perdre une dent lui aussi. Le même sang va lui couler sur le menton. Beryn serait encore vivant si t'avais fait ce qu'il fallait, Cal.
Et là, on voit sans doute vos deux corps s'entrechoquer et les râteliers qui étaient non loin de là, vous allez aller percuter les deux racks qui tiennent les armes. Et dans un fracas métallique et de bois, vous éclatez les deux au sol. Vous êtes les deux essoufflés, les bras en croix, couchés sur le dos, le souffle haché, à chercher votre air, les deux la bouche en sang.
Cal va juste, Cal va reprendre, au lieu de se laisser éloigner de Salomon, il va se rapprocher plutôt de lui. Il dit, si j'avais fait ce qu'il fallait, et dis-moi, chevalier, ce qu'il fallait, c'est te tuer avant que tu tues notre roi. Et pour ça, j'ai failli. Mais ne doute pas d'une chose. Ce qui a tué Beryn, c'est de perdre son honneur. Et ça, tu ne peux te blâmer que toi et ta race. Mais une chose. Ils sont où maintenant les tiens? Dis-moi, à quoi tout ça a-t-il servi de venir ici, d'amener la guerre sur nos terres? À quoi cela a servi?
Vois-tu, Kalchadim, que je suis l'homme qui a décidé d'attaquer votre pays? Je ne suis qu'un soldat qui a suivi les ordres d'un roi. Contraint de le faire. Et votre roi que j'ai tué sur cette plage, j'ignorais même que c'était votre roi. Lorsque je l'ai tué, je n'ai fait que défendre ma vie lorsqu'il m'a chargé. Mais ce que je peux dire, Kalchadim, c'est que moi, mes frères, ils sont venus en enfer avec moi. Et Beryn a perdu son honneur, mais qu'en est-il de toi? Est-ce que t'as suivi ton frère en enfer? Est-ce que t'étais là pour lui quand il avait perdu son honneur? Sur ce, Solomon va se relever, faire face à Cal, mais toute volonté de se battre est partie.
Cal n'est pas... Tu remarques dans ses yeux une extrême fureur et il toise avec frustration, parce que là, t'as atteint quelque chose. Cal va s'approcher doucement de toi, et avec toute l'intimidation et l'espèce de présence que Cal peut faire lorsqu'il est fâché, lorsqu'on sent la fureur, il dit, moi, j'ai traversé le désert pour que cet homme regagne son honneur, ni plus, ni moins, me condamnant ainsi, et perdant toutes les chances d'avancement dans cette carrière qui était
tout pour moi, alors ne viens certainement pas me donner des leçons sur ce qu'est l'honneur et ce qu'est un frère. Le mien est mort à cause de toi et des tiens. Moi, ce que j'ai fait ici, j'ai honoré son honneur. Alors sache une chose, Salomon, jamais je ne reparlerai de Bérine avec toi. Il est à un endroit où tu n'as pas accès. Mais j'ai rempli ma promesse face à Bérine. Je t'ai entraîné et je t'ai gratifié du respect qu'il avait pour toi. Mais ça s'arrête là. Je n'évoque plus Bérine devant moi. Car sinon, je ne lancerai pas par terre mon dernier cimetière. Et qu'elle serait...
Parfait, Kalchadin. Et si tu me nommes encore régicide, eh bien moi, ce sera fratricide que je te nommerai. Parce qu'un homme qui était dépressif, t'as pas été là à ses côtés lorsque c'était le temps. Très bien, on parle plus de Bérine.
Oh, les têtes de mule! Shit! Oh, Seigneur!
Chapitre 2. Pour faire le point, rien de mieux que les points.
Êtes-vous prêt à aller faire un petit tour dans cette belle villa qui est la villa des Caraman?
Bien sûr.
Un petit peu de mise en place. Lorsque Ygritte a vu pour la première fois l'ongle de Kenan, Kal-Shaddim, on a bien vu que Kenan n'était pas très enclin à partager beaucoup d'informations avec elle. Ygritte, voilà 4 jours que tu es l'invité de Kenan à la villa des Caraman. Tu t'es confié à lui révélant ton désir de retrouver le frère Solomon. Jusqu'ici, le jeune Mézoan a su esquiver tes questions ou y répondre que partiellement. Tu as réussi à le traîner quelques fois jusqu'au jardin intérieur pour vous entraîner au maniement des armes et aux arts martiaux. Mais le jeune homme semble peu motivé par ce genre d'exercice. Jusqu'à maintenant, tu as retenu tes coups. Toi qui es si prompte à laisser déborder ta colère, car les informations qu'il détient sont trop précieuses pour risquer de le blesser grièvement. Mais après 4 jours, je crois que c'en est trop, n'est-ce pas? Cette nuit, le navire, la Marée Rouge, partira pour les îles de Fer avec Kenan, Kal et Solomon. En cet après-midi, Ygritte, toi qui l'ignore encore, tu as harcelé Kenan pour qu'il s'entraîne encore avec toi. Aujourd'hui, tu veux des réponses. Donc, je crois qu'il serait assez intéressant de voir cet échange. Kenan, tu as le souffle court, alors que la jeune femme devant toi cherche à peine son air. Alors que tu voudrais bien mettre fin à l'entraînement, tu vois Ygritte bondir à nouveau sur toi. Je te laisse d'abord la main, Kenan, pour décrire un peu vos échanges de coups. On est à main nue.
On est à main nue, ouais. Les échanges de coups, c'est un peu de l'entraînement assez froid comme ça. Moi, j'ai jamais été très passionné par la baston, donc c'est un peu. Je sens que. Ygritte a besoin de se défouler, elle a du mal à tenir en place, donc j'ai un peu proposé de faire quelques passes d'armes histoire de s'occuper, mais c'est pas forcément mon point fort. Et je vois qu'au fur et à mesure, elle commence à... Finalement, ça la pèse pas plus que ça, et puis elle a besoin, au-delà de ça, de se défouler, mais même de sortir une rage qu'elle contient depuis un moment. Et je pense qu'au moment où je vais m'apercevoir un peu d'une peut-être ça serait vers parce que attends, comment est-ce qu'elle se douterait ou
Elle, le nom des Caraman, elle sait très bien que c'est associé à Solomon. C'est la piste qui l'a amené jusqu'à la ville de Nippur. Donc, elle sait que... Mais, une question, Kenan. Pourquoi faire de la rétention d'informations? Pourquoi depuis 4 jours, alors qu'elle s'est confiée à toi, disant qu'elle cherche ce frère Solomon, tu as pas pointé l'endroit sur une carte.
J'aurais pu, mais j'avais peut-être peur de rester tout seul en attendant, et puis au final, je me suis dit que ça serait quand même plus agréable d'avoir une compagnie en attendant ces quelques jours.
Quelle belle agréable compagnie, celle d'Yves.
Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi farouche et aussi agressive.
Elle tient plus de l'animal que d'une femme, finalement, comparée aux mésoènes qui t'entourent.
Mais ça reste quand même aussi... peut-être aussi c'est l'envie de découvrir, tu vois, d'être un peu plus longtemps avec elle pour découvrir un peu ce personnage que j'ai vu pour l'instant que dans les livres... Cette culture.
Ouais, c'est ça, découvrir une autre culture, mais finalement, ça se revire un peu contre toi.
Ouais, c'est ça. C'est qu'au final, bof, elle est pas si bavarde que ça, et puis ouais, la culture, de ce que j'ai appris pour l'instant d'elle, c'est juste qu'elle adore se battre, et elle a tout le temps besoin d'avoir les poings bien fermés et prêts, quoi.
Et là, alors que l'intensité grimpe, est-ce qu'on peut voir un peu comment ça se déroule pour toi, là, côté martial?
Moi, ça se déroule assez mal. J'ai plutôt un tempérament martial à juste être sur la défensive, retenir les coups, esquiver, pas forcément... je suis pas le premier à frapper, ou je suis plutôt un peu en mode... je deviens presque son punching ball, je pense, à arrêter et puis attendre que ça... qu'elle passe à autre chose. Et...
Je verrais bien une caméra en mode subjectif où on voit tes mains et entre tes mains, on voit le visage d'Ygritte, quasiment tordu, déformé par la colère. Et là, on a un 180 degrés et là, on adopte le point de vue d'Ygritte. Mmh. Ygritte, 4 jours. 4 jours à poser des questions sur Solomon et le jeune Kenan avec sa belle langue, peut-être un peu fourchue, séducteur aussi, esquive, et tu n'as pas plus de réponses qu'à ton premier jour dans cette ville-là. Comment te sens-tu? Et on veut te voir un peu t'amuser avec le jeune Kenan.
Ygritte, en fait, elle est un peu dans l'incompréhension parce qu'au début, elle était très heureuse de rencontrer quelqu'un qui parlait en fait sa langue. Elle pensait s'être trouvée un allié en Kenan, mais avec la visite de son oncle, qu'elle a entendu Solomon, qu'elle a fait le lien des Kinaman avec les Karaman, mais que, tu sais, il n'y a pas plus d'informations qui viennent. C'est vraiment de la déception, de la frustration, puis de l'incompréhension d'un monde auquel elle appartient pas. Finalement, est-ce que tout le monde agit comme ça? Je suis traitée comme une bête curieuse. J'étais comme un peu un jouet ou un trophée qui avait envie de trimballer pour dire je t'ai mis avec une barbare finalement, tu sais.
Ouais, mais, toi t'as une méthode directe. Est-ce que tu l'as fait sentir à Kenan cette frustration? Est-ce qu'on va la voir sortir?
Oui.
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 Je la sens, je confirme.
Quasiment. Ça se déroule un peu comme un interrogatoire, mais physique. Ygritte va beaucoup par les coups pour le faire parler. Elle commence doucement simplement en griffant son cou, en faisant croire que c'était un accident pour un peu mesurer en fait son adversaire et sa capacité à endurer la douleur pour pouvoir mesurer ses actions par la suite. Puis
Les premiers coups, Kenan, il va juste les prendre avec le sourire, hein, en essayant de garder la face au mieux, en continuant comme si on est là pour s'amuser, on est là pour se battre pour s'amuser, donc comme si t'avais rien fait.
Dis-moi, Kenan, est-ce que ça prend un peu d'hypocrisie quand tu mets ta main sur ton cou et que tu regardes tes doigts et que tu vois un peu de sang? J'imagine que pour garder le sourire, ça doit demander un petit effort.
Un petit effort, hein?
OK. Allez, Grit.
Mais on voit toujours le sourire légendaire de Kenan, quoi, qui...
C'est aussi ce sourire qui vient amplifier la colère, puis qui prend ça en fait comme une insulte, puisqu'il voit ça comme un jeu, puis qu'elle est très sérieuse à compte d'avoir les réponses à ses questions, puis qu'elle considère qu'elle a assez attendu finalement, qu'elle va en fait saisir son bras, puis le faire... littéralement tomber au sol, face contre terre, en appuyant, tenant son poignet, l'autre main comme sur son épaule pour le maintenir au sol, puis poser les questions qu'elle veut savoir de où est Solomon, où est-ce qu'elle peut le trouver, puis...
Là, Ygritte est en train de jouer à la limite de la douleur insoutenable pour Kenan, c'est bien
oui,
ça?
Oui, ben, tu sais, à... Là, elle se dit qu'elle va mettre un peu... vu que il trouve ça bien drôle, des petites griffures de... C'est un peu inoffensive dans ce qui concerne les capacités d'Ygritte. Elle va y aller, en fait. Elle fait littéralement un revirement de situation en se disant « Bon, ben, tu veux la manière forte, on va utiliser la manière forte. »
Et à ce moment-là, alors que tu y tiens le bras, est-ce qu'on entend Ygritte poser une question?
Peut-être l'ultime question.
Ouais.
Cri de rage. Ah non, je pensais, ouais, je la voyais en fait vraiment crier juste. Et que, en fait, tous les deux savent de quoi ils parlent en fait, ou qu'est-ce qui est question. Donc je la voyais juste crier Salomon, Salomon. Dis, ouais, Salomon.
Qu'est-ce que tu préfères, Andréane? Est-ce que tu poses la question ou comme Thomas le suggère, finalement, la question est tellement sous-entendue depuis 4 jours que t'as juste besoin de crier Solomon.
Ouais, Solomon!
Kenan, c'est à la limite du supportable. Elle est tout près de te casser le bras.
C'est impossible. Cette fois-ci, je pense que c'est peut-être la première fois là qu'on voit Kenan pour une fois arrêter ce sourire-là et puis être vraiment dans une situation où il commence à avoir un sourire plutôt à se tordre de douleur et il va finir par lui dire « Ok, ok, stop, 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 Ygritte, c'est bon, c'est cette nuit. »
Il va lâcher, en fait, doucement, sa prise, juste pour être sûr de le garder au cas où que c'est des bobards, genre.
« C'est cette nuit. » C'est cette nuit que le bateau part. Hein. Il y aura Salomon. On va aller le retrouver. Là.
Mais où il est?
Bah, il est avec. Il est à la prison en ce moment. Cal va l'amener.
Je vois la caméra glisser vers le visage d'Ygritte. Enfin, tu as l'information. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ton visage?
Un visage un peu figé. Tu sais, je vois très bien une des. Tu sais, des deux images d'Ygritte, là, où est-ce qu'elle a un peu la bouche ouverte, en fait, de stupéfaction, parce qu'avec avec le temps passé là-bas, tout ça, peut-être qu'elle aurait eu l'information comme quoi que la prison se trouve pas si loin de la villa, que ça aurait été facilement possible de s'y rendre bien avant, qu'elle aurait eu le temps, que ça aurait été pas... c'était pas une grosse affaire. Donc, dans un élan de colère, elle va probablement lâcher ses bras, puis faire comme un... Tu sais, étant donné qu'il est à plat ventre au sol, tu sais, en voulant se relever, elle se retourne, mais inflige une espèce de... Je dirais pas une descente du coude, parce qu'elle est déjà au sol, là, mais tu sais, elle y assainir une espèce de méchant coup de coude dans la cuisse, là, dans le muscle de la cuisse, juste pour faire passer un choc électrique en entier, puis venir y donner un de ces bleus qui fait en sorte que ta jambe, tu risques d'avoir de la misère à t'appuyer dessus un petit peu, là. Tu sais, par frustration de pas avoir pu régler ça avant. Que ça aurait été possible, puis que
contre son gré, ça lui a été enlevé, cette possibilité-là.
Le coup sur la jambe va se faire se relever droit, Kenan. Ah! Ah, c'est bon. C'est bon, je l'ai mérité.
Tu peux le dire. Puis elle se relève, puis à part frustrée.
La caméra est seule avec Kenan dans ce jardin intérieur. Qu'est-ce qu'on voit?
Dans ce jardin intérieur, on va voir un Kenan perdu, encore une fois, parce qu'il est en train de se demander comment encore une fois, ça a pu foirer avec ça a pu rater avec une autre personne. C'est
les relations avec les gens, c'est pas facile, Kenan?
Non, c'est ça. C'est les relations avec les gens qui sont à son niveau sont pas forcément faciles.
C'est quand il a un niveau de quoi?
Ben, c'est tellement plus facile avec les serviteurs et les servantes.
Chapitre 3. Un départ difficile. Oh ouais.
Je vais faire une parenthèse, tout le monde. C'est pour les gens qui nous écoutent. Ygritte parle guanac et la langue du Dominion, mais ne maîtrise aucun mot de celle des Mézorins, le territoire où nous sommes présentement. Pour imaginer la barrière de la langue, Andrea nous a montré une Ygritte qui avait peine à s'exprimer. Ça a été notre premier réflexe d'amener ça de cette façon-là. À partir de maintenant, on va tourner la lentille de bord. On va faire un 180 degrés. La barrière de la langue, que ce soit pour Ygritte ou un autre personnage, là, héros dans le futur, c'est les PNJ, les personnages non-joueurs qui vont l'exposer, qui vont l'exprimer. Ygritte va parler normalement son guanac ou la langue du Dominion, comme je parle présentement. Exemple, je veux un paquet de cigarettes. Et ce sont les PNJ qui vont faire « Quoi? Elle veut qu'on la passe à tabac? » Bon, vous comprenez le concept. Nos héros, ce sont eux qui sont sous les projecteurs et on veut les entendre clairement. Donc, on va s'enlever cette épine-là du pied. Êtes-vous d'accord avec ça, les joueurs?
Ben non.
Là, je pensais qu'Ygritte allait dire « Non, tu ne vas pas comprendre, moi. » Non,
Donc, on a tout suivi, Ygritte, elle fume.
OK, l'exemple de la cigarette pour Babel, c'était peut-être pas la meilleure, j'avoue.
Ah, moi, j'ai juste une petite remarque.
Est-ce que tu veux parler? Écoute, parce que Danny, tu sais, son Cal Shadim, tu t'as donné un petit accent, mais ça, c'était pour rendre hommage aux gens qui vivent en région comme Arvida. C'est un choix artistique, ça, Danny.
Oui, oui, exactement. C'est un accent connu qu'ils utilisent à Arvida. Là.
On taquine Andréane. Danny, veux-tu nous partager un moment d'histoire de la ville d'Arvida que tu connais bien?
Que je connais bien.
Ben le nom, d'où vient le nom d'Arvida?
Ben vois-tu, exactement, c'est ce que j'ai mis, c'est Arthur Lining David, ce qui fait Arvida. Et c'est les fondateurs d'Alcoa, en fait, c'est lui, c'est un Américain qui s'est importé lui-même et qui a ouvert Alcoa. À l'époque, il faut comprendre, c'est qu'Alcoa, c'est un moteur économique des États-Unis. Hein. Ils ont toujours marché beaucoup, notre vision, et tout ça. Donc, je voulais rajouter, on a fait involontairement, ça
vient d'être fait partie de l'effort de guerre américain. Ouais, écoute, là, ce qu'on a compris, c'est que Danny adore l'histoire. C'est ce que je voulais souligner ici. Je pense qu'on l'a compris. Êtes-vous prêt pour faire ce soir? Écoute, on va commencer par la scène du départ de ce fameux navire. Êtes-vous d'accord? Qu'est-ce que tu allais dire, Dan?
Allons-y. Je m'en allais dire, Babel est une émission culturelle.
Ouais, effectivement. On apprend de tout. Arvida, écoute.
Ouais, ben, à l'époque aussi, là, de la guerre, il était en train de faire la configuration du quartier Arvida en écrivant les lettres avec les rues. Puis je me rends compte que c'était vieux du ciel avec les bombardiers et tout ça.
S'il vous plaît, un peu de discipline, bon sang. C'est l'histoire de Babel, pas d'Arvida. On recommence.
Capitaine Cal Shadim, par ordre royal, tu t'apprêtes à partir en mer pour tout près d'un mois avec Solomon, Kenan et Ygritte, la curieuse invitée de ton filleul. Et ce, pour gagner les îles de fer. Ton rôle, protéger Kenan, le scribe chroniqueur qui a été mandaté pour témoigner du duel judiciaire entre le frère commandant Solomon et le capitaine Euronswan, le champion des Fernés. 28 jours aller-retour en plein océan et peut-être 2 ou 3 jours sur un territoire qui vous a toujours été hostile, les îles de fer. Dis-moi, as-tu des questions par rapport à la mise en place, Danny?
Ça me convient.
tout est dit. On y va avec le frère commandant Solomon. Tu auras gagné un peu de liberté dans les ruines du Colisée en t'entraînant au grand jour sur le sable de la reine avec le capitaine Kalshadim. Maintenant, sous bonne escorte, tu es à cheval dans les rues de la cité de Nippur et tu vas bientôt arriver au bateau qui t'amènera vers des gens qui vouent une haine incommensurable à ton père qui a incendié leur capitale il y a 20 ans et dont tu seras le représentant pour ce duel à mort. Angie, est-ce que tu as des questions?
Non, pas du tout. C'est très clair comme situation. Comme à son habitude, Solomon se ramasse dans un environnement qui lui est très hostile. Donc, non, ça va, j'ai l'habitude.
Le bureau des plaintes, c'est au 10e étage, au bureau A47, et ça prend le formulaire rose B12.
Oui, ça va se perdre, je sais.
Ygritte, il y a 5 ans, dans le nord, ton territoire, tu croisais la route de Solomon et 3 de ses frères de la Rondache. À ce moment-là, vaincu et épargné par lui, tu aurais dû le suivre pour payer ta dette de vie. Mais alors, âgé de 14 ans, tu es resté avec ta tribu d'adoption. Une rage crépite souvent en toi, au point où tu es devenu un danger pour les membres de ta tribu. Ton père, les anciens de la tribu et votre chef, Abeka, oui, c'est ça, ont décidé que tu devais trouver le frère Solomon afin de payer ta dette de vie pour te libérer ton âme de cette rage et revenir ensuite vers ta tribu. Est-ce que tu as des questions?
Non, ça résume très bien la situation.
Moi, j'en ai une pour Ygritte. Tu es une guanaque, une jeune femme des terres. Tu as certes traversé le détroit du Trident, un bras de mer, pour gagner la côte de Bezo, mais c'était qu'un trajet d'une journée à peine. Mais là, on parle de la haute mer, de l'océan. Es-tu à l'aise de prendre ainsi la mer, ce lieu qui t'est inconnu et en apparence peut-être hostile?
En fait, en ce moment, je n'y pense pas trop. Je suis très concentrée sur le fait que je vais enfin retrouver l'homme que je cherche depuis plusieurs semaines dans un territoire où personne ne me comprend. Donc, Ygritte est vraiment concentrée sur ces retrouvailles-là avec Solomon.
Autrement dit, t'es en train de dire...
Elle pourra y penser, ouais, elle pourra y penser après, là.
T'es en train
une fois
de dire
qu'elle est sur le bateau puis qu'elle a le mal de mer, là, elle va faire « Oh merde, dans quoi je me suis embarqué. »
Parfait, je garde ma question sous le bras. Parfait.
Il y a encore une femme qui passe sa vie à me chercher.
Ouais, ok. B12. Êtes-vous prêt à démarrer?
Bingo!
L'écran est embrouillé. Le point focal n'a pas été fait et on a l'impression de voir 2 grands arbres squelettiques dépouillés de leurs feuilles. À mesure que l'image se fait plus nette, on comprend qu'il s'agit en fait de 2 grands mâts d'un navire avec tout le gréement, cordes, filins et poulies. Les voiles sont encore retenues prisonnières. Il s'agit d'un brigantin amarré au port de la cité de Nippur, un navire rapide pouvant accueillir tout près de 80 personnes. Dans le ciel de nuit, privé de nuages, la lune a gagné en grosseur et la fraîcheur venteuse qui souffle désormais sur la ville de Nippur et le port est la bienvenue. Le départ du navire qui amènera nos héros vers les îles de fer aura lieu au milieu de la nuit. D'une part pour profiter de la marée, mais aussi, et peut-être même davantage, pour éviter l'attroupement de curieux et de témoins. Déjà, un navire de Ferney ancré au port fait forcément jaser. Habituellement, lorsqu'on voit une voile de Ferney approcher d'un port maison, on entend aussitôt les cloches d'alerte. Il y a donc une 20aine de soldats maisonins sur le quai, attitrés à la surveillance du navire La Marée Rouge.
À part les Mésoïens, qui parlent plusieurs langues du monde de Babel, eux qui sont la plus grande nation marchande, les Fernés ne sont pas en reste, car ils sont en contact avec pratiquement tous les peuples naviguants et vivant sur les côtes. Bon, un contact qui est souvent suivi de leur lame, le plus souvent du temps, tu sais, on se le cachera pas, mais quand même, les Fernés se débrouillent très bien du côté linguistique. La caméra délaisse la forme fantomatique de la marée rouge, le voilier, pour avancer lentement vers le quai. Ce qui capte aussitôt l'œil, c'est le carrosse d'un blanc pur, devant lequel quatre chevaux noirs piaffent d'impatience. Il est stationné à quelques mètres des soldats mésoïens et d'une silhouette qu'on reconnaît bien, le capitaine Kalshadim. Bien que le navire ne parte que dans 3 heures, tu es en attente de ton filleul et de l'escorte armée qui amènera le frère Solomon jusqu'au navire. Cal, j'aurais une question.
Oui.
Alors que tu t'apprêtes à partir pour un voyage en mer qui durera tout près d'un mois, comment es-tu vêtu? Avec l'armure de capitaine de l'armée mésoïenne ou autrement?
Évidemment, pour les premières escales, pas escales, mais plutôt les premières, les premiers moments bateau, effectivement, je porte l'armure. C'est quand même une façon facile de m'identifier, donc Cal, il va de cette façon-là. Évidemment, j'ai emmené certaines choses différentes, telles des vêtements et aussi si j'y ai besoin, ben une façon de camoufler justement cette marque distinctive.
Très bien.
Mais j'ai quand même mon turban couleur sable qui est caractéristique et aussi mon espèce de cap/voile qui peut couvrir mon armure assez rapidement.
Très bien.
Des pièces de vêtements assez typiques lorsqu'on voyage au désert.
Dis-moi, présentement tu vois, tu sais, la passerelle relie le navire au quai et tu vois les Fernés qui s'affairent à se préparer au voyage sur le pont supérieur et la vingtaine de soldats mésoïens sont là à vaquer, à jaser entre eux et ils ont pour chef un autre capitaine, le capitaine Gata. C'est un des favoris de ton commandant Kuriga. Sans doute que ton lien avec Gata, c'est pas des plus harmonieux du fait que c'est un chouchou de ton commandant. On le connaît bien, ton commandant. C'est pas quelqu'un avec qui t'as des affinités, non?
Non, mais Cal aime à croire qu'il a dépassé ce point-là. Cal est plus du genre à dire, à juger un homme selon sa réelle compétence que par ses accointances, si on peut dire. Donc, dépendamment de la vraie valeur de Gata, dépendamment de sa valeur, dépendamment de ses talents de commandant, c'est vraiment vers ça que Cal va le juger.
OK. Gata est un capitaine et il est compétent. Il est compétent, Cal, mais tu sais, les décisions qu'a prises le commandant Kuriga dans le passé de sacrifier des hommes pratiquement pour rien, pour s'assurer une victoire qui était souvent déjà acquise, Gata les entérinait. Mais au niveau martial, il est très compétent. Je te laisse avec cette information-là. Je veux savoir, la présence du carrosse blanc, est-ce qu'elle t'intrigue ou t'agace?
D'un œil distrait, je vais lui porter attention. Mais sans plus, écoute, je suis pas... disons que j'ai bien des choses en tête présentement et que ce carrosse-là n'en fait pas complètement partie.
Et que fais-tu alors que les soldats parlent entre eux, que le capitaine Gata... observe un peu la marée rouge, le navire, et que les Fernés, eux, s'affairent sur le pont. Que fait le capitaine Kalshadim?
Le capitaine fait ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire il va superviser. Il va s'assurer que les gens, en fait, que tout soit embarqué, que tout l'équipement qui doit être embarqué le soit,
Et c'est ce qu'il va faire. Donc, il supervise avec son air sévère et on peut dire que c'est quand même une des choses qui fait le mieux. Il n'y a pas grand-chose qui lui passe sous l'œil, disons, qui attirera pas son attention. Donc, c'est un petit peu ça.
Alors que tu es en train d'observer les caisses qui passent devant toi, l'ombre d'une silhouette se détache dans l'obscurité d'une ruelle devant toi, Cal. D'un pas traînant, le dos courbé et le souffle rauque, l'ombre se rapproche de toi, précédée d'une branche tordue faisant office de canne. Un homme qui boite, peut-être une quarantaine d'années, le visage tordu et déformé, une énorme bosse sur son dos, qui étire l'étoffe de sa chemise tant et si bien qu'elle semble sur le point de se déchirer. L'homme n'est qu'à quelques mètres de toi.
Ah, mon brave, une piécette pour l'homme que je suis.
Il te tend une main tremblante.
Je le regarde des pieds jusqu'à la tête avec un regard indéchiffrable. Je fouille dans ma poche et je lui tends assez pour... Je lui tends assez pour un ou deux bons repas. Peut-être avec ça même un petit supplément. Et je lui dis « Passe ton chemin, ta place n'est pas ici. Allez, va manger.
» Je vais la faire fructifier, investir dans l'import-export de parfum.
Le visage bien en dessous du tien, Cal, le bossu relève la tête de côté et te jauge, emplissant ses yeux d'inégal niveau. Hein. Il y a un œil pratiquement au milieu de la joue.
Ne vous fiez jamais aux apparences, mon brave. Je suis peut-être un roi. Oui, je suis peut-être un riche commerçant.
Et là, il se retourne pour que tu prennes toute l'ampleur de sa déformation dorsale.
J'ai peut-être la bosse des affaires.
Et là, d'une façon un peu gourde, il réussit à mettre une main dans sa poche et en sort une pomme. Toujours un peu gauche, il tente de placer sa canne sous son aisselle pour entreprendre de fendre le fruit avec ses deux mains. Tu vois qu'il peine à le faire et qu'il finit par y arriver. La pomme est coupée en deux et il te tend une moitié pour toi.
Tenez, pour votre générosité.
Je vois pas nécessairement de signe de maladie chez l'homme. C'est vraiment une déformation. C'est congénital, là, donc... c'est un peu ce que je vois, si je comprends bien.
Oui, effectivement. Tu sais, ça cache pas... Il y a peut-être 18 MTS, là. Je sais pas si c'est un coureur de jupons. mais ce que je veux dire, c'est qu'en apparence, effectivement, son état physique n'est pas le fruit d'une maladie.
Cal prend la pomme. Et il croque à belles dents. Voilà.
L'homme va comme faire 3-4 révérences, se reculer avec sa canne, reculer, jusqu'à disparaître dans les ombres. Curieuse façon de quitter la scène. Alors, tu es en train de croquer la pomme, tu remarques, à ta gauche du mouvement, c'est le cocher du carrosse qui délaisse son siège et saute sur la terre ferme pour aller ouvrir la porte du véhicule. À ce moment-là, un homme corpulent apparaît, à l'éclairage de la lignée de torches qui brûlent le long du quai. Richement vêtu, le pas assuré des hommes en charge de décision, l'individu avance vers toi, Cal. Tu sembles être le plus proche de lui. Il doit te passer avant d'atteindre le capitaine Gatta. Avec tes vêtements par-dessus ton armure, on peut pas voir que tu es un capitaine de l'armée mésoène.
Monsieur, puis-je vous demander une information?
Je peux tenter de vous répondre.
Voilà un temps que j'attends l'arrivée du frère commandant Solomon. Je dois bientôt repartir pour regagner la cité dure. Savez-vous quand il arrivera?
Ah si, je le sais. Est-ce que c'est moi qui l'a emmené? Qui est-ce qui l'amène directement?
Ça va être une dizaine de gardes, dont certains faisaient partie des gardiens qu'il avait dans ce colisée en ruine. C'est, si je me trompe pas, ça va être le lieutenant Ourma ou je vais vérifier pour pas t'induire en erreur. Oumar, c'est le lieutenant Oumar qui va venir porter notre homme. Dis-moi, pendant qu'on parle de Solomon, est-ce que t'as convenu qu'il l'escortait menotté? Il va être accompagné de 10 cavaliers.
Oh! Non, je pense pas qu'on a convenu de rien là-dessus. Moi, mes conditions étaient simples, c'était de... qu'il n'y ait aucune maltraitance qui soit faite à cet homme-là, qu'il soit menotté jusqu'au navire ou pas menotté, moi ça me... Cependant, la seule chose que j'ai demandé, c'est que j'ai bien averti les gens que s'il avait fait une atteinte à sa santé, son intégrité physique ou sa santé, sa sécurité, son intégrité physique ou sa dignité, article 2087 du Code civil du Québec. Yes. J'étais pour probablement s'éveiller gravement.
Très bien. Ils vont s'en mordre les doigts.
Exactement.
Donc, tu sais que le frère commandant Solomon devrait arriver sous peu. Avez-vous une idée sur le moment, monsieur?
Il devrait être ici d'une minute à l'autre.
Tu as bien compris aux vêtements de l'homme qui fait partie de la haute noblesse. Et alors que tu le renseignes, au loin, dans la rue principale qui longe les quais, tu vois arriver une litière ouverte, portée par 4 hommes, une femme marchant à côté. À la couleur de la litière, tu sais que c'est une litière de location, un véhicule de location, comme un taxi que les nobles de la noblesse moyenne de la ville utilisent, car les grands seigneurs, eux, ont les moyens d'engager des serviteurs là, en permanence pour les transporter. Écoute, plus la litière approche et plus tu reconnais les traits de ton filleul Kenan. À quoi penses-tu, Cal, en voyant ici Kenan, ton filleul, se faire balader de la sorte alors que la jeune femme que tu as croisée à la villa il y a 4 jours plus tôt, visiblement le corps athlétique, marche fièrement à côté?
Je suis que très partiellement surpris, là, en fait. Je m'attendais pas nécessairement à ça, pour être honnête, mais en même temps... Ça concorde avec les personnages. Je pense que Cal se conforte de les avoir bien jaugés. Parce que justement, il n'est pas trop surpris de ça.
C'est bon.
Mais quand même, on le voit, ceux qui sont très près de lui vont le voir lever un sourcil un peu, disons, désapprobateur.
Très bien. Et on voit que les 20 soldats qui étaient de garde pour protéger et surveiller la marée rouge sont surpris de, je te dirais, l'allure physique, l'accoutrement de la jeune femme, ainsi que le noble à côté de toi. Les 4 hommes arrivent tout près de vous, les porteurs, et déposent lentement la litière au sol. Et c'est avec des gestes gênés par la douleur que Kenan s'estire des coussins multicolores. Tu remarques alors le cocard, l'œil au beurre noir, qui assombrit sa pommette droite, ainsi que le bandage à son bras gauche et des traces de griffes le long de son cou. C'est clopinant qu'il avance vers toi. Un regard dur et te tend un rouleau, sans un mot.
Prends le rouleau et je dis à Kenan, sans nécessairement attendre de réponse, je dis... Je vais prendre pour acquis que tu l'as bien mérité et ne pas poser d'autres questions.
Vois qu'il soupire, qu'il tourne les talons et prend la passerelle pour gagner le navire. La jeune femme...
Oui, lorsque la femme passe à côté de moi, je vais juste mettre une main devant elle. Et
une main
dis,
pour stopper?
Juste pour stopper. Sans lui toucher, je dis... Mais à toi... Je peux poser la question. L'a-t-il mérité?
Tu ne comprends pas. Okay. Tu sais qu'il te pose une question, mais tu ne comprends rien de la langue mésoenne.
Je me rends compte, je vais je vais me réessayer dans un dans la langue du Dominion, une langue cassée et que je parle avec un réel dédain et une voilà.
Ah, c'est à coup de hache que tu parles de Dominion, effectivement. Tu peux saisir l'essentiel de qu'est-ce qui te dit. Est-ce que tu veux la logique, faudrait que tu répondes en Dominion, j'estime, peut-être, Y?
Oui, je réponds dans la langue du Dominion que ben je sais pas en entendant en fait la cassure de la langue. Je sais pas trop s'il va saisir mes paroles, mais l'essentiel du message est que c'est pour m'avoir maintenu dans l'ignorance et avoir pensé que je pouvais être un peu sa distraction, puis qu'il me dise pas le fin mot de l'histoire, dans le fond, de qu'est-ce que je voulais savoir à propos de Solomon.
Ah, oh, et qu'est-ce que tu voulais savoir? Tu voulais savoir où est-ce qu'il était, Solomon, c'est ça? Tu le cherches?
Oui. Bon. Oui, mais je cherche, ça fait depuis que je suis arrivée, en fait.
Et t'es en train de nous dire que le petit morveux te l'a pas dit?
Ben non, en fait, le petit morveux, ça s'avère être le seul qui parlait le guanac. Puis quand il s'entretenait avec son oncle Cal, il parlait en maison. Puis il s'est bien privé de me dire que Solomon était très près d'ici et que j'aurais pu... aller le rejoindre plus tôt. Alors, apprenant ça, ben c'est ça qui est arrivé. Le résultat, on vient de le voir passer.
Ah, t'as laissé aller tes humeurs de femme sur ce pauvre jeune homme.
Ouais.
Là, tu sais que Solomon s'en vient.
Oui.
Donc, j'imagine que tu courras pas sur le bateau. Tu vas attendre.
Oh oui, que je vais attendre.
Très bien. Que fais-tu du rouleau, Cal?
Pour tout de suite, là, j'ai un vizir devant moi et j'ai la femme, l'étrangère qui est là. Donc, le rouleau est toujours dans ma main, partiellement caché par mon espèce de cap-manteau. Donc, pour tout de suite, c'est pas encore quelque chose que je me préoccupe. Mais on voit quand même Cal, avec cette explication-là, en fait... il a saisi l'essence et même probablement qu'il comprend mieux qu'il parle. Cal va juste baisser sa main, te laisser passage libre. Mais ceux qui connaissent Cal remarquent un léger le coin de sa lèvre va juste se surélever un petit peu, montrant une espèce de un mélange d'amusement et d'approbation.
Ça, une petite lèvre toussée, c'est un peu Cal qui est fendu de rire en deux.
C'est
ta oui. façon de te bidonner au maximum.
Ça ressemble à ça.
C'est le plus qu'on va voir de Cal Shadim.
C'est effectivement probablement ça. C'est à peu près le plus loin qu'on peut trouver à Cal un air sympathique.
Très bien.
Ah, ben, on a les mêmes airs, c'est cool.
Ouais, ça va. Il y a de la joie sur ce quai. Tu vois, Ygritte, que l'homme, le noble, richement vêtu avec ses couleurs et ses bijoux qui brillent de partout sur lui, te regarde de drôlement. Un mélange de peur et de curiosité. Mais ce qui se dégage de cet homme, c'est quand même. C'est quand même positif. Ça semble être un bon bougre. Et au long... Oui.
En fait, Ygritte le connaît pas, va simplement le dévisager du regard, puis il va tout simplement faire un espèce de petit signe de tête en termes de salutation, puisqu'elle veut pas... assez que la barrière de la langue, peu importe qui se trouve autour d'elle et qui est présente, donc elle va simplement saluer d'un signe de tête.
On peut sentir le malaise.
C'est minime, là.
Vas-y, Dan.
Je permettrai pas ce malaise-là. Je permettrai pas le malaise vraiment plus longtemps. Fait que donc, ce que je vais faire, c'est que lorsque je sens qu'il y a comme cette œillade-là et le malaise, moi, je vais m'adresser à l'homme
Je vais dire, monsieur, le prisonnier est en route. Je suis ici pour l'attendre. Si vous avez besoin de voir le chevalier, eh bien, vous êtes au bon endroit.
Je vous remercie. Je suis Arwandi, vizir de la cité dure.
Donc, je penche la tête avec respect. Je lui dis, je suis le capitaine Karl Shadim.
Votre nom ne m'est pas inconnu. Enchanté de faire votre connaissance.
Et il incline la tête.
Je réincline la tête moi aussi.
Donc, vous êtes les trois à attendre le magnifique frère commandant Solomon. Et on va le faire entrer. Un bruit lointain enfle, comme le roulement du tonnerre qui menace de sa fanfare. Et vous finissez par comprendre qu'il s'agit du son de plusieurs sabots ferrés sur le dallage de pierre. 11 cavaliers apparaissent. 10 qui encerclent un 11e. Le frère commandant Solomon. À la tête, notre lieutenant Umar. À ce son, le capitaine du navire et son second descendent de la passerelle pour se poser sur le quai. Et Grite, c'est automatique. Même si ça fait 5 ans que tu n'as pas vu cet homme, ce frère de la rondache, tu le reconnais immédiatement au centre de la cavalerie qui avance vers toi. Dis-moi, est-ce que ton cœur bat plus vite? Est-ce qu'il bat plus fort?
Ah, c'est certain. Ah, mais tu sais, c'est pas... C'est un mélange, en fait, d'excitation puis de enfin, tu sais, j'arrive à... J'ai réussi à le retrouver, puis ça commence à espérer que les choses vont s'améliorer maintenant que... La raison du pourquoi qu'elle est dans cet endroit-là, qu'elle est loin de sa famille, qu'elle a dû s'éloigner de son clan pour retrouver un peu de sa fierté, finalement, est à portée de doigts, si on peut dire.
Oh oui, un jet de pierre. Et la dernière fois, que vous avez passé 2 jours ensemble où ce que tu étais la prisonnière du frère Solomon, 2 jours où tu as tenté de quasiment de le dévorer vivant. Les soldats du Dominion, les frères de la rondache, sont les ennemis des Guanacs. Hein? Le Dominion est toujours en train de vous repousser plus au nord. Et tu étais une vraie furie à 14 ans.
Mm-hmm.
Ça reste un ennemi des Guanacs. Et là, tu t'apprêtes à protéger cet homme pour payer enfin ta dette de vie. Solomon, la caméra se braque sur toi alors que tu es entouré de cavaliers. Tu as les mains libres, à même de tenir les rênes de ta propre monture. Tu sais que c'est du fait du capitaine Karl Shadim que depuis 4 jours, tu as regagné un semblant de fierté. Tu t'es lavé tous les jours, tu es bien nourri. Et il t'a entraîné pendant ces 4 jours. Et tu le vois. Tu vois aussi la silhouette énorme d'Arwandi, le vizir de la cité de Dur. Et une curieuse silhouette à côté d'eux. Tu mettrais ta main à couper que c'est le style vestimentaire des gens du nord du Dominion. Mais est-ce possible qu'une Guanac soit si loin au sud?
Tout d'abord, Solomon, quand il arrive, hein, ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'il est souriant, pas à pleines dents, mais je veux dire, commissure des lèvres et clairement dans les airs. Il est heureux de chevaucher et de se promener en toute liberté. Et de ce qu'on pourrait penser d'un homme qui a été enfermé pendant 4 ans, il a regagné son assurance. Après tout simplement ces 4 jours-là, et aussitôt qu'il arrive à portée, près du cortège qui l'attend, hein, il va sauter de sa selle et atterrir à pieds joints sur le sol. Solomon est peu habitué, hein, de chevaucher comme ça, quelques heures que ça lui a pris à se rendre jusqu'ici. Et il va... Il va venir pour se diriger vers le vizir Arwandi.
Est-ce que quelque chose va t'empêcher de t'y rendre?
Ça va être moi.
Comme ça. Comme ça.
En fait, Ygritte, elle sait pas trop comment aborder le tout, si Solomon va la reconnaître, qu'est-ce qu'il faut qu'elle dise. Elle est pas vraiment habile socialement, donc le réflexe qu'elle va avoir à faire, qu'elle va utiliser, en fait, c'est littéralement de foncer sur Solomon en courant pour lui sauter dessus, l'attraper en mettant ses jambes autour de sa taille pour ainsi s'y accrocher, puis essayer de, à nouveau, comme il y a 4 ans, d'essayer de le mordre, puis donner des coups de dents un peu dans le vide.
Cependant, une main puissante et un croche-pied va probablement t'empêcher parce que...
Va peut-être tenter, nous allons voir.
Nous allons voir parce que moi, j'avais un œil sur elle, je connais pas ses intentions face au chevalier. Et une chose que je dois m'assurer, c'est que le chevalier arrive à bon port en une seule pièce.
Effectivement. Donc, lorsque tu vois cette étrangère, cette guerrière, contracter ses muscles, prête à foncer sur le frère commandant Solomon, Cal, tes réflexes de guerrier embarquent. Vous entendez ce son? Ça sent le jet. Ouais. Et lorsque la blonde de Thomas est en conférence, ben lui est en conférence aussi. Tu sais, c'est beau les appartements dans le Vieux-Québec, mais c'est petit. Puis comme on n'avait pas vraiment besoin de lui, il fait juste passer pour rentrer sur le navire. Et de toute façon, écoute, je devrais être en mesure d'interpréter pour lui un ado rebelle. Là.